en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la séance commune de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 21 mars 2007, durant laquelle vous pourrez entendre la communication du ministre de la Culture en exercice de la Grèce, Georgios Voulgarakis, sur le thème « Le patrimoine européen revisité ». L'Académie des Beaux-Arts, fidèle à sa mission statutaire de préservation du patrimoine, a salué à cette occasion l'initiative du ministre de la Culture de la France visant à doter les hauts lieux de mémoire du patrimoine européen d'un label. Après donc l'allocution de bienvenue prononcée par le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud Dautrive, rappelant l'importance de la culture comme ferment unitaire de l'Europe, vous entendrez le discours en grec du ministre de la Culture, Georgios Voulgarakis, traduit simultanément en français. Le ministre de la Culture de la Grèce a rappelé que son pays et la France étaient à l'initiative de cette nouvelle vision du patrimoine culturel européen en souhaitant œuvrer à la constitution d'un catalogue des monuments du patrimoine culturel européen. Il a annoncé que l'Acropole d'Athènes a été le premier site inscrit au label du patrimoine européen. Il a livré ses réflexions pour la mise en œuvre nouvelle de cette politique patrimoniale commune. Vous entendrez ensuite en réponse l'allocution du secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Jean Leclan, qui a rappelé combien il était légitime de continuer dans une vue universaliste à viser des idéaux qui, au long de 3 millénaires, ont constitué le meilleur de la culture européenne. À la fin de cette séance, le ministre de la Culture de la Grèce a dévoilé une copie de la tête du célèbre Hermès de Praxitèle, chef-d'œuvre du musée d'Olympie, qu'il a offerte en geste d'amitié aux deux compagnies sœurs. Retrouvons-les en grande salle des séances.
Monsieur le ministre, Excellences, Monseigneur, Messieurs les présidents, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames, Messieurs, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, il me revient d'ouvrir cette séance et de vous souhaiter à tous la bienvenue. Je me soustrairai d'autant moins à ce devoir qui m'incombe qu'il me réjouit profondément. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour de fête pour notre compagnie, au nom de laquelle je m'exprime ici. Pour la première fois depuis que j'occupe ces fonctions, nous avons en effet la joie et l'honneur de recevoir, conjointement avec nos confrères de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le ministre de la Culture en exercice de la République hellénique, accompagné de ses proches collaborateurs. Monsieur le ministre, je vous adresse mes salutations et vous souhaite la bienvenue parmi nous. Il faut remonter à bien longtemps pour retrouver trace de la dernière visite d'une délégation grecque à l'Académie des Beaux-Arts. Pourtant, la Grèce est bien présente en notre sein, représentée par Ilias Lalaounis, membre associé étranger de notre compagnie, ainsi que Jean Papas, correspondant de la section de sculpture. J'associe également à cette séance les membres grecs disparus de notre compagnie, mais toujours présents à notre esprit. Je pense notamment à Yanis Xenakis, qui nous a quittés en 2001. Mais je dirais que la présence de la Grèce au cœur d'une assemblée telle que la nôtre se situe au-delà des seuls hommes. Car n'est-ce pas une évidence de dire que, s'agissant de culture, la Grèce n'est pas n'importe quel pays, que l'empreinte du génie grec, comme l'ont si bien montré les grands hellénistes français, et je salue ici Madame Jacqueline de Romilly, qui nous fait l'honneur de sa présence, que cette empreinte, disais-je, est telle sur les représentations esthétiques, mais bien plus encore sur la configuration morale, sociale et politique de nos sociétés, que tous les Européens sont grecs pour une part non négligeable de leur identité. La Grèce et ses inventions, la tragédie, la philosophie, la poésie, la politique et la démocratie, l'art dans ses déclinaisons apolliniennes ou dionysiaques, est le berceau de toute la culture et par là même de la conscience européenne. Est-il nécessaire, à titre d'exemple, de rappeler que c'est de la Grèce que tire leur nom l'ensemble des classes de l'Institut, que toute académie est une petite fille de Platon et de son idée révolutionnaire, le dialogue. Les courbes des statues de Praxitèle ne sont-elles pas l'expression d'un sommet de l'esprit, ce moment, comme le disait Hegel, où l'idéal se trouve, où l'esprit triomphe de la matérialité, ou plutôt où il l'investit entièrement pour incarner le Dieu dans l'homme, l'homme dans le Dieu. Aussi est-ce loin d'être un hasard si l'Acropole se trouve dans les tout premiers lieux choisis pour figurer sur la liste du label européen du patrimoine. Je salue ici l'initiative de notre ministère de la Culture visant par la création de ce label à mettre en lumière les sites et les monuments emblématiques, les hauts lieux de mémoire et de création de l'identité européenne, sous tous ses aspects. Cette initiative a été embrassée avec enthousiasme par votre pays, Monsieur le Ministre. Dire aujourd'hui que tous les Français se sentent grecs devant l'Acropole, que tous les Grecs se sentent Français devant l'abbaye de Cluny, c'est reconnaître et affirmer une identité vécue de manière sensible, transmise par la longue sédimentation des siècles et une projection commune vers l'avenir. Notre compagnie, dont la première mission statutaire est de veiller à la préservation et à l'illustration du patrimoine, ne peut être qu'éminemment sensible à un tel projet. À une époque où l'aventure européenne souffre peut-être de son abstraction, de son absence d'incarnation sensible aux yeux des peuples de l'Europe, de telles initiatives paraissent en effet riches de promesses. Chacun sait que, contrairement aux rêves de certains pères de l'Europe, la construction européenne ne s'est pas faite par la culture. Alors que cette dernière était peut-être le ferment d'unité le plus réel entre les peuples. Célébrer aujourd'hui le cinquantenaire du traité de Rome à travers la culture, c'est un peu redonner corps, matérialiser ce rêve d'une unité d'abord spirituelle et affirmer enfin la substantialité de l'identité européenne au-dessus des intérêts économiques ou politiques, ponctuels, importants certes, mais peut-être impropres à créer durablement un sentiment d'appartenance à un même destin. Le patrimoine est la matérialisation la plus concrète, la plus tangible des valeurs d'une civilisation, la matérialisation de ses désirs, de ses représentations, bref, de ce qui la transcende et lui donne son identité la plus essentielle. En cela, il n'est pas seulement un héritage ou un témoin du passé. Les moines de l'abbaye de Cluny ou les architectes de l'Acropole construisaient pour l'éternité. Le patrimoine porte en lui intrinsèquement un projet que se réapproprient les générations suivantes qui, en le revisitant, le réinvente. En cela, il me semble que c'est la vocation la plus naturelle du patrimoine que de porter cette exigence de transmission entre les générations et de constituer un des ferments d'unité de l'Europe à venir. Pour conclure, et avant de laisser la parole à M. Voulgarakis, que nous avons tous hâte d'entendre, je forme des vœux pour que cette séance soit le prélude à un resserrement concret des relations entre notre compagnie et votre pays, en mettant en œuvre des projets communs, des échanges et des rencontres régulières, nous ferons fructifier notre héritage, la quête de culture immémoriale de nos deux pays. Je vous remercie.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι μόνιμοι γραμματείς,
Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, membres de l'Institut, Excellences, Monseigneur, Mesdames et Messieurs.
Επιστρέφοντας από την Ελλάδα, ο Ανδρέας Ζιντ,
André Gide écrivait dans son journal de voyage en retour de Grèce, tout me semble si familier, ma présence ici me paraît si naturelle, et je regarde avec passion ce paysage qui ne m'est pas inconnu. Je reconnais tout et je me sens comme chez moi. C'est la Grèce. Je pourrais en dire autant. Je me sens chez moi. C'est la France. Surtout après l'accueil que vous m'avez réservé. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance et la plus haute estime que je porte à votre institution, ainsi que l'honneur que je ressens de me trouver aujourd'hui parmi vous. Honorable membre des académies, aujourd'hui, le visiteur de l'Acropole d'Athènes y reconnaît facilement un des monuments les plus célèbres du patrimoine de l'humanité.
Et
pour peu qu'il ait lu Ernest Renan, il y voit un site de haute élévation spirituelle. Mais, à moins d'être un archéologue ou un historien averti, il ne songe pas forcément qu'il s'agit avant tout d'une citadelle, d'un ouvrage défensif qui, il y a encore moins de deux siècles, n'avait en rien perdu de son importance militaire. Et en effet, pendant la guerre d'indépendance, l'Agon, comme disaient les contemporains, l'Acropole fut tour à tour assiégée et défendue, aussi bien par les Grecs que les Ottomans, et elle en subit des dégâts visibles encore aujourd'hui. Elle fut d'ailleurs le théâtre d'un épisode peu connu en dehors de nos frontières. C'est en 1821-22, les Ottomans, barricadés derrière les remparts de l'Acropole, subissaient l'assaut des insurgés grecs sous la direction d'Odyssée Androutos. Et cette opération n'en finissait pas. L'issue était indécise et la conséquence inévitable en fut l'épuisement non seulement des provisions mais également des munitions des défenseurs, qui fut d'ailleurs le dernier lieu de résistance resté entre les mains des autorités ottomanes dans toute la région d'Attique. C'est alors que le jeune combattant, qui fut d'ailleurs par la suite le premier directeur des antiquités, Kyriakos Mitakis, aperçut des soldats ottomans en train de briser les colonnes du Parthénon afin d'en extraire le plomb, qui leur manquait cruellement, mais qui se trouvait en quantité suffisante coulé au centre des tambours de ces colonnes. Ému, il en fit rapport à son camp et persuada, il réussit à persuader les assiégeants grecs de fournir eux-mêmes les balles destinée à leur être rendue au bout des fusils ennemis. Je me demande quelle raison a donc pu pousser ces paysans
frustes
qui assiégeaient l'Acropole. Quelle raison a pu les pousser à se résoudre à ce geste que d'aucuns qualifieraient non sans raison de geste suicidaire? Le distingué helléniste récemment disparu, Pierre Vidal-Naquet, cite dans une mémorable conférence sur le révolutionnaire grec Makrianis
un épisode
qui pourrait nous fournir une réponse. Quand ce chef de bande, il est très et néanmoins mémorialiste distingué, surpris deux combattants grecs en train de négocier avec des étrangers pour 1000 thalers d'argent, négocier donc la vente de deux statues antiques qu'ils avaient pillées, il est pris à part et leur dit: quand bien même on vous en offrirait 10 000 thalers, ne laissez pas les statues quitter notre patrie, car c'est pour elles que nous avons combattu. Comment expliquer que la protection du patrimoine culturel ait pu sembler aux insurgés grecs un début d'une révolution pour laquelle il valait la peine de risquer sa vie? C'est que le général Makrianis et les autres révolutionnaires grecs savaient que c'est dans la mémoire retrouvée de leur passé qu'ils avaient puisé le courage de s'insurger contre le tout-puissant empire ottoman. Or, le Parthénon, où les statues pillées étaient des mnémires, les monuments au sens étymologique de tout objet qui perpétue le souvenir et la mémoire de ce passé. C'était la raison pour laquelle il fallait à tout prix les protéger et même risquer sa vie pour les conserver. La leçon des révolutionnaires grecs n'est pas moins valable aujourd'hui comme il était au début du 19e siècle. Car un homme sans passé est un homme sans racines, est un homme sans conscience, sans conscience de sa valeur et de sa place dans le monde. Veut-on détruire une communauté, un groupe ou une nation? Le moyen le plus sûr a été de tout temps la destruction de ces monuments, de ces paysages historiques, de ces objets et des lieux de mémoire de ce peuple. Et ce ne sont malheureusement pas les exemples qui manquent. De nos jours encore, la guerre est une cause directe ou indirecte de destruction du patrimoine culturel. L'exemple du musée de Kaboul, à l'enrichissement duquel des missions archéologiques françaises en Afghanistan avaient si brillamment contribué. Et je pense tout particulièrement aux magnifiques découvertes de M. Paul Bernard sur le site hellénistique d'Aï Kanoum. Cependant, la guerre est loin de constituer la seule ou même la principale cause de destruction de la mémoire du passé. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler que les prodigieux progrès techniques du siècle dernier n'ont souvent pas été accompagnés d'un progrès comparable dans le domaine de l'esprit. Il y a donc une urgence absolue d'enregistrer, de documenter d'inventorier les monuments, les sites, les paysages historiques et archéologiques qui sont quotidiennement menacés par la guerre, mais aussi par le développement économique et les actions irresponsables de certains. Et toutefois, il faut être pleinement conscient que la vie est, est l'objet d'un changement perpétuel et qu'un pays ne pourrait se transformer en musée. La République, la démocratie se doit de veiller constamment à conjuguer les exigences du développement économique avec la protection de sites et monuments. Il s'agit donc de prendre des décisions avec toute la circonscription souhaitée. Et en faisant référence à Kierkegaard, je pourrais dire que la vie est compréhensible en regardant le passé, mais il faut la vivre en regardant l'avenir. Et s'il y a des domaines où l'on pourrait légitimement hésiter ou chercher des compromis, il y a d'autres domaines dans lesquels toute hésitation serait impardonnable. Tel est le cas, par exemple, du trafic illégal des antiquités qui alimente essentiellement des collections privées, ainsi que les fouilles clandestines qui lui sont indissociablement liées. Car une antiquité arrachée du sol dans des circonstances jamais enregistrées, sans contexte archéologique, sans provenance, perd presque toute utilité comme témoignage historique, devient scientifiquement stérile. Nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens pour rapatrier les produits des fouilles clandestines sorties illégalement du territoire national. Aussi condamnable que la destruction de monuments et sites historiques, le pillage des trésors culturels et l'effacement délibéré du passé, la partie
και η εσχεμένη διαγραφή του παρελθόντος. Το κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου,
μετά την καταστροφή και τη λαϊλασία των εκκλησιών, υφίσταται στη διαγραφή των πονημίων που είχαν διασωθεί
presque επί 3.000 millénaires.
Χρόνια.
Il s'agit là d'un crime autant contre la mémoire que contre l'esprit, de gommer par exemple des cartes le nom de la ville de Kythréa, déjà présent sur le prisme du roi assyrien Esaradon au début du 8e siècle avant Jésus-Christ, pour l'affubler de celui du nom de Dekimerlik. Il en est de même des villes et anciens royaumes de Kyrinia, de Lapethos, qui ont subi un sort comparable. Mesdames et messieurs, membres de l'Institut, depuis la Renaissance, l'Europe occidentale recouvre, grâce au labeur de milliers de savants, la compréhension des humanités. La Grèce connut le même phénomène, mais avec 3 siècles de retard. Ainsi, des générations entières purent profiter directement des chefs-d'œuvre de la littérature et de la philosophie, redécouvrir la Grèce, mais avec les yeux d'Homère, ou expliquer le monde avec l'esprit de Platon. Et dans tous les domaines des sciences et des arts, les textes grecs et latins offrirent un fondement à élaborer ou à contester aux savants et aux artistes européens. Depuis un demi-siècle, ce dialogue fertile et renouvelable à chaque génération se trouve menacé. L'enseignement du grec et du latin se trouve expurgé des programmes scolaires et des chaires universitaires au nom des impératifs du développement économique et de la lutte contre l'élitisme. Pourtant, la demande pour cet enseignement se formule un peu partout en France. Depuis les lycéens qui sacrifient souvent leur déjeuner ou leur récréation pour assister aux cours, jusqu'aux hommes et femmes du troisième âge qui souvent accourent aux classes organisées par des enseignants sur leur temps libre.
Et
vraiment en tant que citoyen grec et surtout en tant que ministre de la culture, je me dois de saluer le combat constant et toujours courageux de Madame Jacqueline de Romilly ainsi que de Romilly. Ainsi que de Jean-Pierre Vernant, tout récemment disparu. Madame de Romilly, dans un récent entretien, vous notez que je ne suis pas très optimiste, ni pour mes chères langues anciennes, ni pour la française d'ailleurs, car il y a un désintérêt et même un dédain pour la raison et les lumières. Ce qui me passionne dans les textes grecs, c'est la rencontre avec la naissance de la pensée raisonnée, rationnelle, de la réflexion. C'est l'éruption de la lumière qui est apparue pour la première fois dans un monde encore confus et obscur. Toute la morale politique et la philosophie des Hellènes vise à la clarté et à l'universel. Et elles ont réussi. Rien n'a vieilli. Leurs préoccupations sont d'une telle actualité. Apprendre à penser. Apprendre à réfléchir. Être précis. À peser ses termes de son discours. À échanger les concepts. À écouter l'autre. C'est être capable de dialoguer. Et c'est ainsi que je pense que nous confirmons le point de vue d'Isocrate. On appelle grec plutôt les gens qui participent à notre culture que ceux qui ont la même origine que nous. Vous êtes grec, Madame de Romilly. Il serait téméraire de vouloir esquisser les traits principaux de la civilisation européenne. Alors que tout Européen les éprouve intuitivement et leur détermination présente le risque de ne pas couvrir leur totalité et d'en détruire l'unité et la plénitude. Car l'unité dans la diversité culturelle constitue le fondement le plus solide de l'Union européenne. Les valeurs spirituelles de notre civilisation européenne, qui puisent leur source dans la tradition des humanités, demeurent essentiellement inchangées depuis lors. Et on pourrait ici citer Protagora. L'homme est la mesure de toute chose. Qui introduit d'ailleurs deux notions essentielles. La philosophie, qui place l'homme en son centre, et la notion de la juste mesure, qui nous mène à la notion de l'équilibre. Constantin Tsatsos, premier ministre de la culture, et ensuite premier président élu de la République hellénique, après la restauration de la démocratie en Grèce, philosophe, juriste distingué, membre aussi bien de l'Académie d'Athènes que de l'Institut de France, écrivait dans un essai intitulé « La Grèce et l'Europe ». L'élément qui détermine principalement les communautés humaines les plus durables et historiquement importantes, ce n'est ni leur présence dans un même espace géographique, ni les conditions économiques qui sans cesse se modifient, et les intérêts qui s'y rapportent. Les communautés sont formées en premier lieu par les éléments spirituels communs, les conceptions communes des valeurs fondamentales, religieuses, morales, esthétiques, qui se cristallisent dans une tradition commune, dans des mythes communs, dans un mode de vie social commun, dans un ensemble de réactions psychiques semblables.
Όμοιων ψυχικών δράσεων και αντιδράσεων. Συνεπώς,
ainsi,
μόνον οι πολιτισμικές κοινότητες
είναι historiquement important, ce sont uniquement les communautés culturelles.
Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος,
et Constantin Tsatsos
είχε ολοκληρώσει
avait parfait ses études universitaires en Allemagne,
αλλά
mais
από την
avait
ηλικία,
baigné depuis son enfance
είχε γίνει κοινωνός
dans la culture française.
Παιδείας και πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο
et ce n'est pas un hasard si en exergue de son essai, il avait placé une citation de Paul Valéry définissant l'identité européenne. Paul Valéry, après avoir analysé les conditions qui déterminent la culture européenne, disait que vraiment, le vrai européen, c'est celui qui peut vraiment être habité par l'esprit européen partout où les noms de César, de Caius, de Trajan, de Virgile, partout où les noms de Moïse, de Saint Paul, les noms d'Aristote, de Platon et de Clyde ont une signification et une autorité simultanée. Là est l'Europe. Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit, à la discipline des Grecs est absolument européenne. Ce n'est donc pas un hasard que la Grèce et la France partagent les mêmes conceptions sur l'Europe et furent à l'origine d'une initiative qui ambitionne de proposer une toute nouvelle vision du patrimoine culturel européen. De le revisiter en mettant en valeur des monuments au sens plus large du terme. Des monuments qui ont contribué à l'émergence d'une conscience collective commune. Nos deux pays
sont
convaincus que la conscience d'un passé partagé et d'une culture commune est le meilleur fondement d'un projet d'avenir et répondant à la volonté politique
στην πολιτική βούληση των
de
κυβερνήσεών
leur, de gouvernement,
οι δύο χώρες μας αποφάσισαν να συνεργαστούν στο τομέα της αρμοδιότητάς τους με την κατάρτιση του καταλόγου των μνημείων της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει μνημεία, αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους,
des paysages historiques et plus généralement des biens culturels qui sont marqués d'une orientation européenne particulière. Chaque pays pourra proposer, chaque pays européen, des monuments, des biens culturels qu'il compte parmi ceux qui ont influencé de façon décisive notre civilisation et de ce fait occupe une position importante dans la tradition européenne. Notre initiative nous conduira au recensement des monuments et des sites qui soulignent l'identité européenne et qui constitueront la carte culturelle de l'Europe dans le but d'en faire un bien commun de nos sociétés. Nous accorderons une importance spéciale à la constitution de réseaux transfrontaliers qui auront comme but de promouvoir de nouveaux moyens de communication. Et je pense que grâce à cette carte culturelle, nous serons conscients d'une meilleure façon de notre patrimoine et de nos liens culturels communs. La promotion et la de cette initiative sera importante pour les générations à venir. La promotion et la diffusion parmi un public plus vaste de la dimension européenne des monuments contribueront de manière déterminante à la meilleure compréhension des influences mutuelles de nos traditions culturelles et à l'appréciation des éléments qui nous unissent dans notre diversité. Chacun de nos peuples a parcouru un chemin historique qui constitue une partie intégrante d'un ensemble européen plus vaste. Le maintien de notre diversité, du patrimoine culturel propre à chaque peuple, sera la contribution la plus précieuse de chacun d'entre nous. Et la synthèse de nos cultures va mettre en place une nouvelle civilisation de l'ancien continent. Mais si jeune, en se reconnaissant pleinement dans sa diversité et en répondant sans crainte et de façon originale et innovante aux défis des temps nouveaux, elle se tiendra à la mesure de sa riche tradition culturelle. Nous unissent ainsi un nombre important de valeurs, de principes et d'idées. La raison comme fondement de la connaissance, l'idée de la liberté, liberté de la communauté, mais aussi de l'individu comme valeur suprême, la valeur de l'égalité devant la loi, l'émulation pour l'obtention de l'excellence. Autrement dit, tous les éléments qui sont à la base du régime démocratique de l'Antiquité et sur lesquels nous devrons bâtir la Constitution européenne commune. La Grèce a par conséquent un devoir particulier pour la préservation et la protection de l'héritage culturel européen. Et je voudrais vous faire savoir, non sans fierté, je suis fier et je l'avoue, que l'Acropole d'Athènes, en tant que monument phare, est le premier site qui figure sur le classement au patrimoine de l'Europe. L'importance historique et symbolique de ce monument, car il a joué un rôle sans précédent dans l'histoire du continent européen et a fortement contribué à la formation de nos valeurs communes et de notre identité européenne. Il s'agit là quand même de l'endroit où est née la démocratie. Le 26 mars prochain, j'aurai le plaisir d'apposer avec mon homologue français, Donadieu de Fabre, la plaque du classement au patrimoine de l'Europe sur le site de l'Acropole d'Athènes. Le programme de l'inscription au label du patrimoine culturel se fonde sur la reconnaissance de l'importance fondamentale de la culture pour l'achèvement institutionnel de l'Union européenne, car la culture dans toutes ses dimensions ou manifestations constitue un facteur d'unité et d'intégration pour les peuples européens qu'il faut recenser, préserver, consolidé, mais également diffusé par tous les moyens offerts grâce aux techniques modernes afin de mettre à la disposition des populations européennes. Et la culture, en effet, offre une identité qui ne s'appuie pas seulement sur l'héritage du passé, mais aussi sur la vision partagée de l'avenir. Et la notion de la citoyenneté européenne, pour être opérationnelle, ne peut pas se contenter de la dimension juridique. Elle doit s'enrichir d'une conscience d'appartenance à une communauté culturelle active et vivante. Je suis particulièrement heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui, à quelques jours du 50e anniversaire du traité de Rome, de pouvoir mettre en valeur toute l'importance de la culture pour l'Europe et de revisiter son patrimoine culturel. L'Europe recherche actuellement une nouvelle dimension institutionnelle et l'acquisition d'une identité culturelle plus nette ne pourra que faciliter son unification politique. La culture n'est pas seulement le dénominateur commun de l'Europe, elle est aussi le moyen le plus efficace pour la réalisation de l'intégration européenne. Et quand tout aura été dit, l'Europe restera toujours une notion avant tout culturelle. Mesdames et Messieurs, en exprimant à la fin notre satisfaction, Monsieur le Chancelier, à avoir une coopération plus institutionnalisée entre nos deux organismes, je voudrais vous répondre que l'Académie d'Athènes est prête à une telle consolidation de nos liens, car je pense qu'une telle coopération ne peut mettre en valeur nos deux cultures et civilisations.
Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, excellences, mes chers confrères, mesdames et messieurs, qui mieux que vous, monsieur le ministre, pouviez nous parler du patrimoine culturel européen, vous qui êtes le représentant de la nation qui, la première, a porté le flambeau de ce qui est la culture qui nous réunit tous, Européens. De votre côté, monsieur le ministre, à la veille du 50e anniversaire du traité de Rome, comme vous nous le rappelez, en quel lieu pouviez-vous présenter le bilan actuel et les problèmes que pose le patrimoine culturel européen, mieux qu'en notre Institut de France, et en particulier devant les membres des deux académies par essence culturelle, l'Académie d'inscriptions et belles-lettres, temple de la science érudite, spécialement experte dans l'étude des antiquités classiques, et l'Académie des Beaux-Arts, qui groupe l'élite des créateurs dans les domaines les plus divers, de l'architecture à la peinture, à la sculpture, à la musique, et désormais aussi ouverte aux disciplines plus modernes telles que l'art cinématographique. L'Académie d'inscriptions et belles-lettres et l'Académie des Beaux-Arts peuvent s'enorgueillir d'être des institutions séculaires, puisque leur fondation, il y a près de 3 siècles et demi, remonte au cœur même de notre époque classique, celle de Louis XIV. Notre bâtiment lui-même, excellence, sur les bords de la Seine, en face du palais du Louvre, avec sa coupole, que vous venez de visiter, demeure le symbole des plus hautes réalisations de l'esprit humain. Conçu, comme vous le savez, pour être la chapelle de souvenir du cardinal Mazarin, cette basilique rassemblait autour d'elle les bâtiments d'un gymnase destiné à l'éducation de jeunes nobles des quatre nations, au sens ancien du terme, c'est-à-dire l'élite de la jeunesse des quatre provinces récemment réunies par le cardinal à la France, l'Artois, le Roussillon, l'Alsace et les pays alpins. Ce chef-d'œuvre, chapelle et bâtiments, dû à l'architecte Levaux, est un des fleurons du patrimoine français et au-delà du patrimoine européen. Il est lui-même un témoignage, un modèle par excellence de ce qui constitue traditionnellement les parfaites réalisations de la culture. Pour nous autres, qui travaillons quotidiennement, il signifie une leçon d'équilibre et de sagesse, une incitation à la réflexion sur les valeurs sur lesquelles doit reposer la civilisation. Car nous savons bien que notre culture, celle qui est l'idéal actuel de l'ensemble de nos frères européens, n'est qu'une possible parmi toutes celles que peut faire éclore le génie humain à travers l'ensemble du monde. La récente inauguration sur les rives de notre Seine, à quelques kilomètres en aval, sur cette même rive gauche, du nouveau musée du Quai Branly, le MQV si j'ose dire, nous invite, par ses œuvres si authentiques et troublantes à la modestie, et à nous situer à notre juste place dans l'histoire des réalisations humaines. Mais il n'en reste pas moins qu'il est légitime pour nous de continuer, dans une vue universaliste d'ailleurs, à viser à des idéaux qui, au long de 3 millénaires, ont constitué le meilleur de la culture européenne, comme votre discours vient si brillamment de le démontrer. Vous avez bien voulu nous faire part des entretiens que vous avez eus avec M. le ministre français de la Culture, M. Renaud Denieux de Vabre, sur la constitution d'une carte culturelle de l'Europe et d'une liste des monuments essentiels qui constituent le patrimoine de l'Europe. Nous nous réjouissons tous qu'une plaque soit tout prochainement apposée sur l'Acropole, sur ce monument phare, comme vous le dites, du patrimoine culturel européen. Comme vous l'avez souligné, l'héritage du passé nous engage à réfléchir sur une vision partagée de l'avenir. Pour reprendre vos termes, l'élaboration d'une identité culturelle plus nette ne peut que faciliter la création d'une solide intégration européenne. Voilà pourquoi nous sommes très sensibles, monsieur le ministre, à l'analyse si pénétrante que vous venez de nous présenter du patrimoine culturel européen. Dans cette ville de Paris, où foisonnent tant d'institutions culturelles, nationales aussi bien qu'internationales, de prestige et de résonance incomparable, vous avez choisi notre Institut de France pour délivrer votre message. Nous vous remercions profondément de votre intention. C'est dans les jardins d'Académos, sous les ombrages qui bordent l'Ilissos, alors un ruisseau des plus charmants, qu'est né le groupe de sages, de penseurs, d'érudits, qui a donné son nom à un type de réunion d'hommes dont nous efforçons, à l'heure actuelle, d'être les témoins actifs. Dans la vie académique, les liens sont nombreux entre Athènes et Paris. Athènes, l'Académie, la société archéologique aussi. À notre compagnie des inscriptions des belles-lettres, présentement, appartient le président Potrakos, président de l'Académie d'Athènes, le professeur Adjopoulos aussi. À l'Académie d'Athènes, au cours des toutes dernières années, des nôtres ont été choisis par votre Académie et par la société archéologique. Toute une brillante galerie de noms célèbres pourrait être citée. Je m'en tiendrai seulement à la génération précédente, à Charles Picard et Louis Robert. J'ai été moi-même élu à l'Académie d'Athènes, rejoignant d'illustres confrères. À Athènes, vous avez accueilli notre illustre amie Jacqueline de Remilly. Dans cette séance même, je retrouve mes amis le professeur Joanna, le professeur Gilbert Dagron, qui, après-demain après-midi, sera accueilli rue Panestimiou, notre ami aussi, le professeur Jean-Marc Adet. Je dois aussi citer, dans ce qui nous réunit, l'action efficace de l'école française d'Athènes, la célèbre Rudy Dotou, des publications nombreuses, des revues nous lient déjà, des symposiums communs, et comme vous l'avez indiqué vous-même, nous espérons que ces liens si vivants soient encore enrichis par de nouvelles activités qu'il nous revient de définir. Pris par nos devoirs quotidiens ou hebdomadaires, emportés par les rythmes de notre tâche de plus en plus trépidante et accélérée, peut-être n'avons-nous pas toujours de façon suffisante le loisir de la réflexion et de méditer sur les impératifs qui devraient être les nôtres. Et c'est pourquoi nous vous sommes reconnaissants, monsieur le ministre, d'être venu nous inviter à réfléchir sur le sens de ce qui constitue nos engagements fondamentaux. Selon les modalités qui nous sont propres, en fonction de l'histoire de nos compagnies, de finalités spécifiques, nous devons aussi de temps à autre, ne serait-ce que brièvement, faire une pause, établir le point, réfléchir en commun, tant sur le présent que sur l'avenir. Et ainsi, monsieur le ministre, nous vous demeurons reconnaissants de nous avoir invités cet après-midi à le faire, et nous vous renouvelons l'expression de notre gratitude pour cette belle leçon sur le patrimoine culturel européen, Efkaristopoli.
J'aimerais moi aussi exprimer toute ma reconnaissance et vous remercier. Exprimer mon respect vers l'Institut de France qui depuis des siècles rayonne dans le domaine de la culture, de la civilisation humaine. Permettez-moi d'offrir justement une copie d'Hermès de Praxitèle qui a été retrouvée à Olympie. Et j'aimerais également souligner qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui se trouve au centre de l'actualité, puisqu'il y a deux jours, nous avons inauguré au Louvre une exposition sur le sculpteur Praxitèle.
Canal Académie vous a proposé d'écouter la retransmission de la séance commune de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres du 21 mars 2007, durant laquelle vous avez pu entendre la communication du ministre de la Culture en exercice de la Grèce, Georgios Voulgarakis, sur le thème « Le patrimoine européen revisité ».